C'est la fête de la Pentecôte, c'est une fête juive. C'est une fête de Moïse. Ça s'appelle Shavuot. La Pentecôte en hébreu, Shavuot. Et parce qu'il y a 50 jours qui séparent l'intervention d'Elohim pour arracher le peuple d'Israël au monde au monde de l'Égypte, au monde du mal, à l'esprit de ce monde et à Satan. Il y a trois libérations. Voilà. Et le troisième mois, le peuple d'Israël est dans le désert, c'est-à-dire dans le désir de Dieu, dans le désir de Dieu lui-même, quoi, hein, c'est ça. Alors, le peuple d'Israël se trouve au pied d'une montagne, pas une haute montagne, hein, le Sinaï est une montagne qui est une montagne assez basse. Et le peuple d'Israël sur la montagne doit se maintenir quand même à une distance telle qu'il peut entendre, voir et recevoir l'alliance entre Dieu et la lumière surnaturelle de la foi. Voilà, et le don de cette alliance est venu du ciel, et il est descendu, j'allais dire, comme du feu, mais un feu qui ne brûle pas, parce que Moïse rentre à l'intérieur de ce feu, avec Jésus, avec Yeshua, et ils sont même quelquefois 72 à y rentrer. Ce feu transforme la montagne en pavement de diamants lumineux, translucides, immaculés, magnifiques, tout mis en attente. Et Dieu fait une alliance avec ce qui est immaculé dans son œuvre. Son œuvre, c'est la création de l'homme. Et il le rend immaculé, il marche, il l'embrasse, il le fait, et il donne le don de l'alliance, c'est-à-dire la force du ciel et la force de son accréateur du fond de la terre, les deux ensemble pour embraser d'amour le cœur de ceux qui se sont laissés arracher par la puissance victorieuse d'Élohim. Élohim, c'est le nom que les Juifs ont donné à Dieu lorsqu'il combat contre le mal et qu'il obtient la destruction des ennemis de l'immaculation, de la grâce immaculée, de la grâce, de la ressemblance divine qui envahit tout de l'âme du peuple qui appartient à Dieu, des enfants de Dieu en un seul peuple. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que l'an 2021 d'aujourd'hui, la valse, comme ils disent les Juifs, de Shavuot, une espèce de danse extraordinaire, de la Pessah jusqu'à Yom Kippour, se donne de manière sensible à tous ceux qui sont dans l'unité d'amour et de lumière, les uns avec les autres, parce qu'ils peuvent recevoir du coup la force de rendre cet amour possible pour Dieu et pour le prochain, et pour tous les hommes. Et c'est pour ça qu'une alliance est faite d'amour entre Dieu qui aime tous les hommes, puisqu'il les crée dans la puissance de l'amour, et en les créant, il crée l'image ressemblance d'un tout petit enfant de Dieu et enfant de l'homme dans la terre, À chaque fois que Dieu crée, il arrache cette nouvelle créature au monde au monde qui s'est laissé attirer, quoi, hein, par Lucifer et par la ténèbre. Et il en fait un saint. Voilà. Mais il refait alliance avec lui. Il refait alliance avec lui, avec non pas avec la puissance militaire d'Elohim, mais avec la miséricorde. Il descend dans une montagne. Il descend dans une montagne immaculée. Il recrée tous ceux des hommes de la terre qui sont dans l'unité d'amour ensemble. Alors les Juifs fêtent ça aujourd'hui. Et en plus, ils disent aujourd'hui que les Shavuot aujourd'hui se fêtent pour la 3333e fois. C'est le 3333e anniversaire de la fête de la Pentecôte. Le don de la Torah, c'est-à-dire de l'unité indivisible de l'amour de Dieu et du prochain, mais comme un feu qui descend dans ceux qui, par la foi, s'ouvrent à la présence messianique. C'est le Messie, hein, qui est entièrement glorifié par sa divinité dans la divinité de Dieu, qui se manifeste dans l'océan, j'allais dire, dans l'océan terrestre, dans la matière toute préparée de l'Immaculée Conception, de la créature qui n'est pas atteinte, qui n'a jamais atteinte, et qui a gardé, et qui, aussitôt créée, au lieu de rentrer dans les ténèbres comme nous, elle est rentrée dans les profondeurs, elle a scruté les profondeurs du Verbe de Dieu qui l'illuminait pour rentrer dans les profondeurs de la paternité de Dieu à l'intérieur de son amour inconditionnellement donné, et reçu, et extasié, disparaissant, j'allais dire, dans les profondeurs intimes de la troisième personne de la très sainte Trinité. C'est pour ça que les Juifs disent que la fête de Shavuot doit se fêter le troisième mois. Parce qu'il y a un seul Dieu, mais il y a trois extensions de cet amour éternel de Dieu qui est donné aux hommes à travers le Messie. Voilà, alors, faut quand même pas oublier que quand la fête de la Pâque à Jérusalem a donné à cette espèce d'océan intérieur incarné de la transverbération du cœur de Marie, la possibilité de recevoir corporellement tout le feu intérieur de l'alliance de Dieu avec les hommes. C'était pour la troisième fois. Les Juifs disaient, oui, il y a trois grandes manifestations de Shavuot, c'est-à-dire du don de l'amour venu d'en haut, et s'il est reçu, il doit se répandre et traverser tous les obstacles qui nous séparent de l'éternité de Dieu. Il fait que l'alliance entre Dieu et nous n'a plus du tout de distance. Il n'y a plus d'espace entre l'amour de Dieu, entre Dieu et nous, dans le don que Dieu fait de cette force flamboyante, embrasée, qui est donnée par le Messie rempli de gloire. Marie, elle, 50 jours après la résurrection, elle est cette terre toute préparée, cette troisième création de Dieu, qui va recevoir le don de l'alliance, parce que l'amour a été donné dans le principe, l'amour a été donné, et il a donné donc tous les commandements de Dieu. Ils ont été donnés de manière sensible, d'une manière flamboyante, d'une manière rafraîchissante, d'une manière chaleureuse, d'une manière mystique, d'une manière palpable, et sous forme de parfum et de délice à Noé. Et c'est pour ça qu'on dit que la Torah, c'est-à-dire les commandements de Dieu, qui sont des commandements d'amour pur, de pur amour, sont donnés dans le principe et redonnés une deuxième fois à Noé. Et tous les hommes de la terre, c'est pas forcément parce que vous êtes juif que vous recevez la Torah, tous les hommes de la terre reçoivent les commandements de Dieu. C'est redonné une deuxième fois avec Moïse, parce que pour la première fois, le peuple d'Israël a vu le Messie. Le peuple d'Israël a vu le Messie, puisque c'est le Messie, la gloire du Messie, la gloire du Messie qui les a arrachés au pouvoir de Lucifer et les a fait sortir, a écarté la mer Rouge, et les a amenés pendant 50 jours à la fête de la première moisson. Shavuot, 50 jours après Pâques, ça s'appelle aussi la fête de la première moisson, le blé est moissonné. C'est la première coupe du blé. Donc pour nous, on sait très bien, c'est lié, bien sûr, on est d'accord, avec le premier fruit dans la troisième Pentecôte, qui est celle de Marie, le fruit de l'Eucharistie, 50 jours après la transverbération de Marie, en communion avec l'Église tout entière jusqu'à la fin. Alors, il y a le don de la Torah a été fait. Les Juifs aujourd'hui, partout, ils se réunissent et ils disent que, et ce qui est vrai, parce que c'est la doctrine infaillible des Nachites d'Israël, auquel Saint Joseph, Sainte Marie rentraient à fond et ouvraient toutes leurs portes pour en recevoir la pénétration et la conserver eucharistiquement jusqu'à la fin du monde pour la faire produire pour la gloire de Dieu. Et ils ont reçu tous les juifs avec Moïse par la puissance du Messie, les trois ont reçu les premiers fruits de l'Eucharistie, de la messe qui devait s'accomplir de manière surabondante et définitive et parfaite seulement à la fin du monde. Ils en ont reçu quelque chose, et d'après la doctrine des Nachites d'Israël, lorsque la Torah a été donnée il y a 3333 ans au peuple de Dieu, le peuple de Dieu, tous les juifs qui étaient là, ils étaient 600 000, sans compter les femmes et les enfants, ils se sont trouvés transfigurés. Ils se sont trouvés dans une unité, un seul corps, une seule lumière, et ils étaient dans un amour les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu, qui était comme une espèce de Pentecôte d'unité entre eux tous, le Messie, et le don que Dieu était en train de leur faire dans leur unité. Et c'est pour ça que les rabbins et les nachis d'Israël disent que pour la fête de Pentecôte, pour la fête de Shavuot, tous les enfants d'Israël se sont retrouvés avec une âme entièrement ouverte. Ils avaient, comme Moïse, ils étaient ouverts de tous les côtés à tout ce qui était l'unité du peuple de Dieu jusqu'à la fin. Et ils étaient dans le même état, tous chacun, et en même temps, Ils étaient dans un état qui sera semblable, je pense, à celle de l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. En tout cas, analogue. Ils étaient dans un état d'amour, d'unité, de paix totale, d'amour total, qui était semblable à celui dans lequel se trouvait la sainteté à l'état pur d'Adam et Ève avant le péché originel. Et ils avaient cet état où ils étaient tous ensemble dans l'unité de l'humanité tout entière, présente, passée et future, et ils étaient les porteurs d'une nouvelle fécondité. Et du coup, ils étaient en affinité avec l'alliance de Dieu et des hommes. Mais voilà, après, il y a eu... Et ils disent encore aujourd'hui, tous ceux qui suivent les commandements de Dieu, les 613 préceptes donnés par Dieu à Moïse, s'ils se réunissent ensemble, s'ils mettent leur cœur à l'intérieur du cœur de tous les enfants de Dieu, de la terre, sont transportés à travers le temps. Ils sont transportés à travers le temps au pied de la montagne du Sinaï, et le feu qui descend vient les embraser d'une manière nouvelle, malgré l'abaissement qui a été celui de l'humanité, malgré l'alliance avec Dieu, qu'il y a une rédemption qui se fait et une miséricorde. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent, nous pouvons rentrer à l'intérieur de Dieu sans aucune peur, parce que c'est la première fête de la miséricorde de Dieu. Ça s'appelle Anava, je crois. Alors Dieu n'est pas un Dieu qui est crasse, qui châtie, qui anéantit, j'allais dire, qui écarte. C'est un Dieu qui s'approche, et qui s'approche de la nature humaine dans sa sainteté primordiale. Il la redonne d'une manière nouvelle, et nous sommes à nouveau les responsables de la nature humaine tout entière. C'est joli, hein, comme fête. En même temps, c'est une fête eucharistique. Il y a les trois. C'est ça, les juifs. Ben, les juifs de l'époque d'il y a 2000 ans. Voilà. Quand c'était le 1333e anniversaire, Marie était là avec les apôtres. Elle était dans l'attente des prémices de la moisson eucharistique, puisque il y avait une seule fois la messe 50 jours avant, et elle était, les apôtres, les disciples qui étaient là, ils étaient 120, hein, et ils étaient 120, et ils étaient entièrement engloutis, par une grâce, qui était une grâce semblable à celle qui a été donnée à Adam et Ève, dans la grâce sanctifiante, qui était en eux, avant. Ça a duré, combien de temps ça a duré Adam et Ève à votre avis, hein? Cette grâce sanctifiante d'amour, de paix, de lumière, de vision, de science infuse, ça a duré, puisqu'il y avait la patience, donc ça a duré, et ça pouvait durer, et c'était vécu comme durant jusqu'à la fin du monde. Et c'était vécu avec une force de bonté, de surabondance, de bienveillance, et aussi avec la foi aussi, bien sûr. On s'était engloutis, Ève et nous, on s'était engloutis dans une fidélité inconditionnelle. Voilà, et il y avait aussi la grâce de l'illumination du Verbe de Dieu qui nous portait, puisqu'on était les porteurs de la messianité à laquelle nous avons été créés en Adam et Ève. Il y avait tout ça. Voilà. Et il y avait aussi l'humilité. L'humilité n'avait jamais été confrontée à la tentation du point d'orgueil. Et dans cette humilité, il y avait la maîtrise totale de la terre, du corps, de la chair. Une maîtrise qui faisait que le corps venait et émanait et sortait de la main de Dieu, notre corps, dans un corps spirituel qui était fécondé d'en haut et qui ne venait pas d'une fécondation d'en bas. Voilà, et le Marie se trouve là, avec Joseph, entièrement disparu dans l'amour du prochain, où Dieu vient recueillir de quoi s'incarner, et ils ont été les deux seuls avec Jésus, les trois seuls à vivre ça. Pourquoi? Parce que, à cause du point d'orgueil, à cause de la concupiscence, et à cause du jugement aussi des autres, la première alliance, la deuxième alliance et la troisième alliance se sont retrouvés dépouillés de toutes les forces du Saint-Esprit à l'intérieur des croyants. Il a fallu cette quatrième alliance avec Marie dans la transverbération où la mort glorieuse du Christ est venue vivre dans le cœur de Marie d'une manière qui était non pas celle de la grâce sanctifiante, non pas celle de la nature, mais celle de la anastase, de la résurrection. Jésus est ressuscité d'entre les morts et il a créé à l'intérieur de Marie de quoi s'inscrire à l'intérieur du cœur de chaque être humain qui accepte d'être entièrement recréé par Jésus dans la transverbération de sa Pâque. Mais cette puissance qui a transpercé Marie, a englouti toutes les morts de la terre jusqu'à la fin du monde. Le cœur de Marie engloutit toutes les morts jusqu'à la fin du monde, et son corps aussi, et son cœur aussi, connaît dans le temps de la patience de sa sainteté, de sa maternité divine sur nous, la mort. Et c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y a eu la dormition un jour, puis l'assomption. Mais la mort du cœur de Marie a fait naître le cœur de l'Église, dont elle est la tête. Dont elle est la mère, dont elle est glorieusement, résurrectionnellement la mère, dont elle est la source de fécondité. Et les apôtres, en particulier, il s'agit bien sûr de Saint Jean qui a pris Marie chez lui 50 jours avant, et Marie a pris Saint Jean chez elle, il y a eu une Pentecôte du Saint-Esprit entre eux trois, c'est-à-dire Saint-Joseph, Saint-Jean et Marie, dans une espèce de grâce sacerdotale et sponsale en même temps, qui est tellement inouïe que Jésus dit « Je ne peux pas vous en parler parce que vous n'êtes pas capable de porter une grâce d'amour aussi puissante pour l'instant. Il faut pour ça que vous ayez, que vous receviez le Saint-Esprit, que je vous enverrai. » Il y a eu une grâce de Pentecôte dans laquelle Saint Jean et donc tout le collège apostolique, tout le collège sacerdotal, toute la communauté, l'unique corps vivant, tout l'amour qu'il y avait, a fait disparaître toutes les formes de jugement. Chacun était dans vis-à-vis des autres, quel qu'il soit, à l'intérieur du cœur de Marie et dans l'embrasement de Pentecôte du sacerdoce du sacerdoce qui est venu se remplir en eux. Ils étaient quand même déjà consacrés dans le sacerdoce éternel et victimal de Jésus assis à la droite de Dieu le Père, et qui faisait que du coup, ils considéraient tous, quels qu'ils soient, l'autre supérieur à eux-mêmes. Une humilité totale. Une unité totale. L'esprit de crainte de Dieu débordait d'eux, c'est-à-dire pas le moindre jugement, pas la moindre condamnation, pas la disparition totale, l'accomplissement de la rédemption, de la miséricorde de Dieu, se répandant effectivement partout. À l'intérieur de Marie, tout est donné et tout est remis, et il constituait, pour ainsi dire, la nouvelle unité au pied du mont Sinaï nouveau, de la Jérusalem dernière. Voilà, et cette Pentecôte a quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que dans les Actes des Apôtres, il est dit ceci, il est dit unanimitaire, persévérantaire, orabant apostolie, les apôtres priaient, mais dans l'unanimité, une indivisibilité de miséricorde totale, qui est celle de Marie, mais Marie brûlant dans son cœur incarné de l'anastase, de la résurrection de Joseph, et avec lui englouti dans le sacerdoce d'amour éternel du Christ, qui a dit lui-même là, inscrit là, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Et l'Église, elle est née, du coup, ce jour-là, l'Église de la Jérusalem dernière, celle qui se trouve immaculée, celle qui se trouve entièrement pure, contemplative, l'Église qui se trouve mystiquement incarnée à l'intérieur d'une chaleur qui vient de l'au-delà de la résurrection de Jésus, qui s'engloutit à l'intérieur de sa divinité, dans la divinité de sponsale de Dieu, et les deux disparaissant pour rentrer corporellement et aussi divinement dans la chaleur, dans la délicieuse chaleur de la paix et de l'amour éternel, des délices du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que cette quatrième Pentecôte est une Pentecôte qui s'écoule à l'intérieur des apôtres et à l'intérieur de ceux qui sont dans le corps mystique de l'Église de Jésus. Ce qui fait le chrétien, c'est que il vit du Saint-Esprit. C'est Saint Athanase, celui qui a défendu la divinité du Fils unique de Dieu, et du Messie d'Israël, et de Jésus ressuscité. Hein. C'est Athanase qui dit, le chrétien, c'est celui qui vit du Saint-Esprit. Et celui qui vit du Saint-Esprit, il vit de ce qui est à l'intérieur des profondeurs éternelles de Dieu. Avant la création du monde, il pénètre, il est dedans, il disparaît lui-même, et il en éprouve chaleureusement, de manière sensible, il en vit chaleureusement la présence. D'une manière primordiale, il en a soif. Il est tourné vers elle, il est ouvert de tous les côtés pour la recevoir. Et à un moment donné, il reçoit l'effusion, le don du Saint-Esprit, le don de la Pentecôte, mais il le reçoit en entier. Il ne peut pas le recevoir pour lui tout seul, il ne le reçoit que si il est entièrement uni à tous les autres. Et celui qui n'est pas entièrement uni, de manière inconditionnellement à tous les autres, ne risque pas de recevoir le don du Saint-Esprit. Il risque pas de le recevoir, il va recevoir des charismes. Il va recevoir du Saint-Esprit, oui, ben voilà, une force transitoire, une foi ardente, il va recevoir, je sais pas moi, un désir de demander pardon. Il va recevoir des mouvements surnaturels venus du Christ, notre Seigneur. Il va recevoir un désir de se rapprocher de Dieu. Mais recevoir le Saint-Esprit, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit s'il n'est pas dans cette unité totale avec la nature humaine tout entière, avec tous ceux qui sont proches de lui. Et il le sait parce que il y a à l'intérieur de lui, comme dit saint Athanase à ce moment-là, une lumière, un amour invincible, une paix qui dépasse tous les temps, une joie qui fait que il possède avec le Saint-Esprit l'acquisition du salut du monde entier. Il le possède en lui, il s'y introduit, il en est l'instrument, il le vit continuellement, il ne s'en sépare jamais, il est dans l'onction messianique de la résurrection du Christ, il est transverberé, il disparaît dans cette transverbération à l'intérieur de la production d'une humilité totale, d'une humilité substantielle. Il se considère et il se voit, sans mentir bien sûr, comme pas comme le plus grand pécheur, c'est pas ça, mais il se voit comme le plus trop loin, celui qui est le plus loin de Dieu. Il y a une humilité substantielle. Il veut toujours s'enfoncer davantage à l'intérieur de cette humilité substantielle qui fait la royauté de la Jérusalem dernière, qui fait que il n'y a plus la moindre ombre d'un regard sur soi-même, sur ce qu'on a fait, sur ce que Dieu a fait à travers nous. Il ne voit plus rien de tout ça. Et à ce moment-là, il reçoit le corps de la résurrection, il reçoit le fruit dans le Saint-Esprit de la sponsalité, de l'anastase du Christ, et de l'épouser à l'intérieur de la sponsalité éternelle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est quand même Dieu lui-même. Et nous sommes adaptés à Dieu. C'est pas notre petite appréciation. Et pourtant, Dieu est lui-même à l'intérieur du corps spirituel venu d'en haut. Notre corps ne vient pas de la descendance humaine. Il m'a dit, il y a mes parents, mes grands-parents. Mais oui, mais Dieu a agi sur la matière vivante des milliards de fois, des myriades de fois, plus que tes parents, pour te faire apparaître à la vie. C'est la différence qu'il y a avec les chimpanzés. C'est que Dieu, c'est notre Père. Et nous sommes donc, pour ainsi dire, une capacité de recevoir l'Esprit Saint. Bon, ben le Christ, ben, en venant s'asseoir à la droite du Père, il s'est mis à la droite du Père, il est sorti de la terre pour engendrer à l'intérieur de Marie et de tous les chrétiens qui sont un avec Marie et la Jérusalem de la terre et la Jérusalem dernière, qui sont un avec elle pour recevoir la vie divine de Dieu lui-même. Et une fois qu'on a reçu, pendant cette neuvaine extraordinaire de l'Ascension, unie avec Marie, unie avec l'Église immaculée tout entière, dans le corps spirituel venu d'en haut, dans cette soif emportée dans le désert, tout à fait en dehors du regard de l'esprit de ce monde et du regard de Lucifer, lorsque nous sommes là, au terme de cette neuvaine sacrée, de cette neuvaine sanctissime et flamboyante, nous pouvons recevoir pour la 3333e fois l'alliance entre Dieu et les hommes. Et on peut du coup, j'allais dire, se lever et dire oui au baptême que nous avons reçu, parce que si Dieu nous a choisis, c'est pour que nous soyons les instruments de la condamnation et de la disparition du mal sur la terre. Jésus dit, je vais vers le Père. Vous devriez vous réjouir de ce que j'aille vers le Père, parce que je vous donnerai un paraclet. C'est pas moi qui juge le monde. Moi, je suis là. Nous sommes là. Dieu est là par amour, par miséricorde, pour sauver le monde. Et le monde sera sauvé, bien sûr. Le monde est sauvé. Il l'est déjà maintenant si nous faisons partie de l'Église de Jésus, de l'Église de la Jérusalem, de l'Église accomplie, de l'Église d'Immaculation, de l'Église qui est sans péché. L'Église est sainte, est immaculée, est une, elle est sans péché. Et je viens au fond de vous pour vous embraser de cette chaleur de la Pentecôte. Et cette chaleur de la Pentecôte opère grâce à vous, moi, un avec vous indivisiblement, un triple jugement. Dans ce triple jugement, qui est celui de la miséricorde de Dieu, opère de manière réelle, incarnée, effective, et définitive et indivisible, la condamnation du péché. Et il n'y a qu'un seul péché, c'est de ne pas croire en moi. Il n'existe pas d'autre péché que celui-là. Et au don de la Pentecôte, le deuxième jugement, c'est de constater que nous sommes complètement arrachés à l'esprit de ce monde qui est rempli de ce péché. L'esprit de ce monde n'a rien qui vient de Dieu, n'a rien qui vienne de l'homme, et n'a rien qui vienne du bien, de la lumière et de la paix. Et le troisième jugement qui est en nous quand nous recevons l'Esprit Saint dans la Pentecôte, c'est que nous, dans cette chaleur qui nous incorpore dans l'au-delà de la résurrection de Marie, Joseph et Jésus, nous sommes dans cette chaleur, nous sommes dans cette vie, nous sommes dans cette vision, nous sommes dans ce rayonnement, nous sommes dans cette énergie, dans cet accomplissement, et nous voyons, nous constatons que Satan est totalement vaincu. Et lorsque nous avons la maîtrise de ces trois jugements et que nous en vivons par la puissance du Saint-Esprit, alors à ce moment-là, j'allais dire, nous avons le témoignage que nous sommes chrétiens. C'est un témoignage que le Saint-Esprit témoigne à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il fait exploser et épanouir à l'intérieur de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de Saint-Joseph, et de la Sainte Vierge dans l'Assomption? Il le fait éclater à l'intérieur de cette sponsalité, cette rencontre d'amour éternel de Dieu, qui a créé la matière du corps et du cœur de l'homme pour pouvoir disparaître, être introduit à l'intérieur de la très sainte Trinité, en être le porteur, en être le récepteur, et en devenir le soleil. Et c'est comme ça que Jésus a dit, « Moi, je suis glorifié en eux. » La gloire que j'avais et qui consistait à donner le Saint-Esprit et disparaître en le donnant à l'époux, à la première personne de la très sainte Trinité, Dieu donnait cette gloire du Saint-Esprit de manière active en disparaissant en elle et glorifiait le Père, glorifiait le principe même de l'éternité et de l'amour fulgurant et toujours renouvelé et toujours reconçu de Dieu. Et le Père glorifiait le Fils, l'époux et l'épouse, parce que c'est une relation sponsale dans l'aspiration de la deuxième procession de la très sainte Trinité. Le Père glorifiait le Fils, c'est-à-dire que il aimait l'épouse, son épousée, la deuxième personne de la très sainte Trinité, en disparaissant en elle, et en sent qu'il lui donnait le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit procède de l'amour de l'époux pour l'épousée. Et c'est l'Esprit Saint qui glorifiait le Fils dans la disparition du Père, en son amour, dans l'inspiration active. Et ce double échange, ce théâtre prodigieux de l'amour embrasé de Dieu dans l'éternité, faisait la jouissance, fait la jouissance éternelle de Dieu. Mais cette fois-ci, elle assume Assomption, elle assume la résurrection du Christ, c'est-à-dire le corps ressuscité du Christ. Mais comme le Christ est venu aussi avec le corps ressuscité de Saint Joseph, et lui est inséparé de la transverbération de l'Église dans le cœur immaculé de Marie, eh bien, du coup, le Saint-Esprit attire par spiration et se donne dans cette glorification à celui qui est chrétien. Si nous vivons la très sainte Trinité, à un moment donné ou à un autre, nous recevons la Pentecôte, la triple Pentecôte, dès cette terre. Et à ce moment-là, nous pouvons dire et témoigner que le Saint-Esprit nous a été donné jusqu'à la fin. Celui qui est chrétien ne pêche plus. Il n'appartient plus en rien à l'esprit de ce monde. Il est entièrement libéré de la tentation. Il est entièrement séparé du rayonnement, de l'influence et du regard de Satan sur lui. Il ne participe à aucune de ses œuvres. Il est immaculé. La Jérusalem de l'Église, c'est ce qu'on dit dans le credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. L'Église vient du ciel. Elle est immaculée. Il n'y a aucune trace de condamnation en elle. Et ça, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la conception de l'Église, une sainte catholique. Et moi, je fus un membre vivant de l'Église de Jésus vivant sur la terre et vivant aussi glorieusement dans le ciel, indivisiblement. C'est drôlement bien la Pentecôte parce que elle nous permet de nous recentrer vers ce qu'il faut désirer, vers ce qu'il faut recevoir et ce en quoi il faut que nous disparaissions pour la transformation du monde. Ce que dit Jésus, je vous enverrai l'Esprit Saint pour que la bonne nouvelle soit annoncée à la création tout entière. Quand tu penses, par exemple, que la surabondance de ta vie catholique, de ta vie chrétienne dans le fruit des sacrements, la première moisson, Shavuot, eucharistique, se conjoint à la dernière, à travers toi par la foi, quand tu penses que c'est de cette surabondance-là que les anges eux-mêmes, qui sont dans la vision béatifique pourtant, se laissent remplir pour le miracle des trois éléments. Hein? Les rabbins ils disent que il y a 613 préceptes dans le don de la Torah à l'humanité. Eh bien, le premier commandement de Dieu, tu aimeras ton Dieu, tu l'adoreras de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Tu tourneras vers lui, il sera tout à toi, tu seras tout à lui. Tous tes espaces sont pour lui. Eh bien, ils disent, il y a 248 préceptes pour le premier commandement et 365 préceptes pour les 9 autres. Parce que c'est pour tous les jours. Et les 4 premiers commandements sont bien sûr pour Dieu. Les 5 premiers commandements sont pour Dieu. Parce que quand tu dis, tu dois honorer ton père et ta mère, c'est un commandement d'amour de Dieu. Parce que Dieu est passé devant ton père et ta mère pour te créer. Et si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne respectes pas la grâce et la présence vivante, continuelle de Dieu. Et tu ne tuera pas celui que j'ai créé. Parce que je suis continuellement en train de le créer. Et si tu ne respectes pas la vie, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Les 5 premiers commandements de Dieu sont des commandements inconditionnels de l'amour de Dieu. Et les 5 suivants sont pour qu'on puisse posséder, recevoir toutes les grâces de Dieu pour le salut du monde et pour que les sceaux et les secrets de Dieu puissent attirer à travers nous, à travers le cœur immaculé de Marie, à travers la spontanéité glorieuse de l'Anastase, à travers Jésus, de Dieu assis à la droite du Père, attirer une grâce descendante. Le Saint-Esprit est descendu vers nous par la voie descendante, sous forme de langue. Vous savez, vous avez Jérusalem ici, là, comme ça, et puis vous avez une descente comme ça, une descente, là, il y a le torrent du Cédron, au fond, en bas, là, à l'est, là, des murs de Jérusalem, il y a le torrent du Cédron, puis on remonte, là, aujourd'hui, il y a l'église de la Dormition, je crois, et puis ça remonte un petit peu, là-bas, par une colline, c'est là qu'il y a le mont des Oliviers, et c'est au sommet du mont des Oliviers, Jésus a amené des centaines de gens, là, et il est monté comme ça au ciel, et la gloire de Dieu a pris Jésus, il s'est soulevé, il s'est élevé, mais une gloire est venue le prendre et le faire disparaître à leurs yeux. Voilà. Et c'est par là, c'est par là que le Saint-Esprit, la Pentecôte, un feu sensible, chaleureux, incarné, si je puis dire, pas incarné parce que le Saint-Esprit s'incarne pas, hein, mais un feu adapté à l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit de Marie est venu sur le mont des Oliviers et sous la forme d'ailleurs d'une très grande lumière et d'une espèce de gloire de sa forme, et elle est venue rebondir comme ça, et elle a fait comme un mouvement de colombe. Elle a passé au-dessus du Cédron, au-dessus de Gethsémani, cette espèce de gloire qui était finalement assez grande, puisqu'elle avait la dimension de la cité de la grande ville de Jérusalem. Et Europe, elle est venue recouvrir Jérusalem. Ça a fait un bruit, mais alors un grand, très très grand bruit, c'était comme... Et puis, de là, sur tout Jérusalem, tout le monde s'est réveillé. C'était 9h du matin, et pourquoi est-ce que les gens dormaient, j'en sais rien, mais tout le monde s'est réveillé, et Marie était, cette colombe qui était immense, qui recouvrait toute la cité de Jérusalem, et qui s'écoulait continuellement venant de l'endroit où Jésus était parti, parce que c'est Jésus qui envoie l'Esprit Saint sur la cité sainte. Et la cité sainte véritable, c'était Marie, dans son unité avec les apôtres, et tous les baptisés en union avec Marie, et Joseph ressuscité avec Jésus. Alors, ce bruit qui est en même temps un souffle, un vent qui faisait un bruit, ça a été un bruit éclatant, c'est à concentrer son effet, son mouvement au-dessus du cénacle, et les murs du cénacle se sont ouverts. Et il y a cette ce feu de la Pentecôte, de la présence à la fois incréée et rendue sensible dans le monde créé, est venu traverser le Cénacle, l'envahir, et c'est là, une fois qu'il est rentré sous forme de feu d'amour, le feu d'amour qui est au-delà de la gloire de la résurrection de Jésus, puisqu'il s'est envoyé par le Père et le Fils, il est venu se diviser dans des flammes, qu'on appelle ça les langues de feu, des flammes, et se mettre dans chacun des 120 personnes qui étaient là. En fait, c'est allé tout dans le cœur de Marie, et puis c'est venu resplendir et déborder dans chacun. Et ils ont tous reçu, donc, la présence réelle, palpable, chaleureuse de la troisième personne de la très sainte Trinité. Ils n'ont pas reçu ça dans leur corps, ils n'ont pas reçu ça dans leur âme, ils n'ont pas reçu ça dans leur esprit. Ils ont reçu ça comme des langues de feu. Et le Saint-Esprit, donc, s'est servi d'eux comme instrument pour annoncer la bonne nouvelle que Satan était définitivement vaincu désormais et qu'ils en possédaient, eux, jusqu'à la fin du monde, la grâce. Je veux dire, par là, il n'y aura pas de cinquième Pentecôte. J'aime bien ce que disent les nazis d'Israël, les rabbins, ils disent, vous savez, le jour de 50 jours après la Pâque, la Pesha, tous les enfants d'Israël, tous les fils d'Abraham, tous ceux qui ont la foi de Marie, c'est moi qui rajoute tous ceux qui ont la foi de Marie, tous ceux qui ont la foi du véritable Israël de Dieu, reçoivent une grâce intemporelle, qu'ils soient au ciel, qu'ils soient sur la terre, et qu'ils soient dans le monde de l'attente, tous reçoivent une grâce qui est intemporelle et qui les transporte au pied du mont du Sinaï, en présence de Moïse et en présence du peuple d'Israël il y a 3300 ans. Ils sont tous transportés réellement, bilocation, et ils sont unis dans un amour fou et bondissent dans l'unité entre eux, pour recevoir le don de l'amour de Dieu et de tout ce qui existe en Dieu. Et c'est la première moisson, Shavuot. Voilà, et ben ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est ça qu'ils vivent d'ailleurs. Ils disent des prières, mais qui indiquent exactement ce que je suis en train de vous... De vous dire. Eh bien, tout ça, c'est une prophétie de ce que vit l'Église des baptisés, qui, le jour de la Pentecôte, nous recevons une grâce intemporelle, et tous, que nous soyons dans la résurrection, au-delà de la résurrection, que nous soyons dans la vie purgative, dans la vie illuminative, dans la vie que nous soyons, où que nous soyons, sur toute la terre, tous ceux qui ont été baptisés reçoivent une grâce intemporelle qui les transporte dans le cœur de Marie au moment où elle fait surabonder de Saint Joseph ressuscité et de Jésus ressuscité d'entre les morts. Le don de la Pentecôte dans l'Église tout entière jusqu'à la fin. Nous sommes transportés dans ce qui s'est passé là, le jour de la Pentecôte, en Marie, et qui doit durer comme ça, dans la mise en place de notre corps spirituel pendant une vingtaine d'années. C'est pas moi qui suis transporté, c'est tous les enfants, tous les enfants de Dieu, baptisés, plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Tous ceux qui sont les membres vivants de Jésus vivant. Au ciel, mais aussi tous ceux qui ont été créés par Dieu et qui ont soif, et aussi tous les hommes de bonne volonté qui sont incorporés au corps mystique de l'Église par tous les enfants de Dieu qui les baptisent chaque nuit. Tous sont transportés dans une unité d'amour qui les rend indissolublement liés les uns avec les autres. Ils sont transportés à l'intérieur du cœur de Marie en l'an 30 après Jésus-Christ. Et ils reçoivent le don de la Pentecôte, qui n'est quand même pas un don qui s'est arrêté. Voilà, ça a duré 3 heures, de 9 heures du matin à midi. Non, bien sûr, à cause du fruit et des prémices, des premières prémices de la moisson, c'est une Pentecôte qui est renouvelée chaque année et qui s'intensifie au fur et à mesure, d'année en année. Nous avons été créés pour Dieu. Et si on n'y a pas mis, j'allais dire, tout notre capital d'attention et de vie, eh ben, c'est pas grave. On en demande pardon, puisque c'est Jésus qui fait le reste. Mais on se confie quand même, hein, en lui.